dans 30 minutes. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On a un invité en studio. Je me dis, ah, c'est un gars de Québec, j'ai déjà fait affaire. Carl Ruel, qui est un agent correctionnel retraité avec qui on va passer les prochaines minutes. Moi et Audrey, on a énormément de questions à poser par rapport au milieu carcéraux. C'est le genre de sujet qui nous intéresse.
Ben oui, puis c'est d'actualité aussi dans mesure où, dans les dernières semaines, on n'arrête pas de voir dans les journaux puis dans les médias comme quoi il y a des agents correctionnels qui se ramassent à l'hôpital à cause de détenus. Fait que tu te demandes un peu ce qui se passe derrière les portes, là. Puis ben là, on va avoir la chance de le savoir.
Carl Ruel, salut!
Bonjour.
Merci d'être dans le studio avec nous autres. T'as été agent correctionnel pendant combien d'années?
Moi, j'ai fait 25 ans au pénitencier à Donnacona.
Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce métier-là? Je veux dire, est-ce qu'on est en disant, hey, moi, je vais être agent correctionnel? J'ai souvent entendu parler, moi, je vais être policier, moi, je vais être pompier, mais s'occuper des détenus en tant que tel.
Je te dirais que c'est un petit peu un concours de circonstances pour beaucoup de personnes.
Ouais.
Effectivement, c'est sûr que tu te lèves pas à 4-5 ans en disant « moi, je vais être
agent correctionnel ».
J'avais pensé à être policier à un moment donné. J'avais un problème de d'œil à ce moment-là.
OK.
Puis les opérations pour les yeux n'étaient pas encore
aussi développées qu'aujourd'hui.
Fait que je me suis orienté plus vers le côté correctionnel là, par après.
Quand t'es rentré, c'était-tu tough?
Moi, je suis rentré, c'était en plein cœur de la guerre Hells Angels Rock Machine.
OK.
OK. C'était assez tough, oui. On avait des incidents régulièrement, oui. On avait une surpopulation carcérale parce que à cette époque-là, il y avait des détenus en double occupation. Mais je dirais, pour beaucoup de raisons, c'était moins tough qu'aujourd'hui,
okay.
Au moment où je pars.
Mais il y avait peut-être une notion de respect à l'époque?
C'est-à-dire que...
À votre égard, là?
Ben, à ce moment-là, les seuls détenus qui étaient séparés, qui n'étaient pas en contact un avec les autres, c'était justement les Hells Angels et les Rock Machines. Donc, ils étaient dans deux secteurs différents. Mais les autres détenus, tout le monde était mélangé. OK? Fait qu'il y avait moins de chaque gang avait son influence entre les détenus, mais face à nous autres, c'était moins un conflit face à des gangs. Et à cette époque-là, on avait beaucoup plus de crimes organisés à l'intérieur. Donc, justement, des motards, mais il y avait aussi de la mafia, il y avait les Irlandais, il y avait toutes sortes de choses. Puis le fait qu'ils devaient cohabiter tous ensemble, ben ça faisait qu'il y avait une meilleure entente. Puis face à nous autres, ben c'est des gens du crime organisé. T'sais, eux autres, là, c'est business. Hein? Fait qu'eux autres, ils comprenaient ben beaucoup que s'ils sont toujours en confrontation avec le personnel, ben le business à l'intérieur, elle fonctionne pas, là.
Oui, ne pas attirer l'attention, je pense que c'est ce qu'ils ne voulaient pas faire dans le temps.
Oui, bien c'est ça. Puis il y avait des vrais leaders influents. Fait que des fois, il y avait comme, tu sais, il venait nous voir, « Regarde, tel gars, il est à problème, tu sais, il faudrait peut-être passer à le sortir parce que là, ça fait du trouble. » Des fois, nous autres, à un moment donné, là, on passait notre message aussi que, tu sais, tel gars, il faudrait qu'il se calme, là, parce que, tu sais.
Puis vers la fin de ta carrière comme agent correctionnel, qu'est-ce qui avait changé?
Je dirais, c'est toute la gestion par UIS qui a beaucoup changé. Pour mettre en contexte, avant, il y avait un secteur d'isolement. OK? Fait que dans le secteur d'isolement, tu avais les détenus qui demandaient protection. Ça, c'était volontaire.
Ouais.
Puis tu avais les détenus qui, eux autres, avaient fait une petite infraction disciplinaire, mettons. Okay? OK? Fait qu'eux autres étaient là quelques jours, une semaine ou deux. Et là, ben, à un moment donné, avec l'arrivée du nouveau gouvernement qu'on a eu dans les 10 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Autant...
Ça, c'était fédéral, ça?
Moi, je suis au fédéral. Okay. Moi, c'est 2 ans et plus.
Fait que quand Justin Trudeau est arrivé, il y a des choses qui ont changé.
Quand Justin est arrivé, ben, c'est toute la mentalité qu'on connaît depuis ce temps-là. Là. Je ne veux pas faire de politique d'abord puis de l'autre.
En fait, les conservateurs ont toujours été tough on crime.
Oui, c'est un petit peu plus,
plus
contrôlé.
Les libéraux ont toujours été un peu plus soft.
Ben, pour te donner une idée, lorsque le gouvernement Harper a fini... Lui, il avait augmenté les sentences minimum pour beaucoup de types de criminalité.
Les agressions sexuelles.
Les choses reliées à la drogue, les choses violentes. Il avait augmenté justement l'éligibilité aussi aux libérations conditionnelles. Il avait annulé tout ce qui était le temps fait en détention pendant les procédures comme prévenu. Principe que le temps fait compte en double. Lui, il avait ramené ça à dire, regarde, c'est du temps simple. Fait que t'as fait 6 mois en détention pour ton procès, mais t'as 6 mois de ta sentence de fait. Quand Trudeau est arrivé, lui, il a tout changé ça. Fait qu'il est revenu le temps double, il est revenu. Là, c'était fallait libérer des détenus en conditionnel. Et il a mis fin aussi à ce qui était l'isolement proprement dit pour faire une gestion. Le nom qu'ils ont trouvé, c'est l'unité d'intervention structurée. OK? Là, on n'a plus le droit de mettre les détenus en isolement comme tel. On a une durée maximum par année. Et là, on doit trouver des alternatives. OK? Ce qui fait que là, présentement, on sépare tous les détenus qui ne sont pas compatibles. On les regroupe en petites populations, entre eux autres. Mais là, l'établissement n'est pas fait pour ça. Et là, ben, quand tu regroupes tel groupe de criminels ensemble, ben, eux autres, dans leur façon de faire, ils viennent de prendre un pouvoir, ils viennent de prendre le contrôle d'un secteur. Puis l'autre secteur à côté, c'est la même chose. Puis l'autre, c'est la même chose. Fait que là, il y a beaucoup plus de confrontations. Il y a beaucoup plus... Ils sont plus mélangés. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il y a plus de danger pour nos agents carcéraux?
En tout cas, le nombre d'incidents n'a pas baissé.
Okay? Il est en augmentation.
Oui, il est en augmentation à cause de ça. Quand il y a un détenu, on ne peut plus le mettre dans un secteur. On l'envoie un petit peu dans l'UIS. Mais là, il faut qu'on trouve une alternative. Donc, on l'essaye dans une autre population. Ben là, des fois, ça ne fera pas là non plus. Fait que là, les détenus vont, entre guillemets, le sortir. Ça va avoir une agression pour le sortir de là. Ben là, nous autres, on est confrontés à faire face à plus d'événements violents. Plus d'événements. Puis là, ben, qui dit agression, ben, dit risque de blessure, autant pour les détenus que pour le personnel. Exposé à plus de sang, donc de contamination. C'est toute une chose là, qui... C'est comme une spirale.
C'est,
là,
c'est un cercle vicieux.
Oui, c'est ça, un cercle vicieux. Ça, je cherchais.
Je te regarde la charpente. Là, je me suis dit, écoute, y a-t-il un frigidaire qui rentre en studio? Est-ce qu'ils s'en sont déjà pris à toi?
J'ai déjà eu des agressions. Il y a une agression, entre autres, mais elle n'était pas dirigée envers moi. C'est que à cette époque-là, j'étais gestionnaire, puis je rencontrais un détenu en audience dans mon bureau. Puis un détenu d'un autre secteur, il avait eu le contrat de s'en prendre à ce gars-là.
Elle passait.
Fait que lui, il est arrivé dans le bureau avec un arme artisanale. Le détenu, il est assis comme en avant de moi.
C'est un pic, là?
Oui, un pic, exactement, un pic. Donc, il est venu pour le poignarder. Fait que là, ben, mon réflexe, moi, j'étais aussi dans le groupe d'intervention, donc un réflexe plus d'intervention aussi. À ce moment-là, ben, je me lève, je bloque le coup. Le détenu qui devait être agressif, il va se cacher en arrière de moi. Fait que là, moi, bloqué à le cou, j'ai la lame qui m'a à côté de la gorge. Puis là, j'ai lancé le bureau sur le détenu. Puis là, après ça, ben, les autres agents ont sonné l'alarme. Puis là, les autres sont arrivés. Puis le détenu s'est couché à terre, se faire menotter, se faire emmener en isolement. Là.
Êtes-vous payé assez cher pour ce job-là? Tu sais, quand t'es pogné pour essayer de sauver la vie d'un détenu, là...
Ben, je dirais, en partant... pour moi, mais je pense que c'est valable pour pas mal tous mes confrères, quand on arrive dans une situation d'urgence, oui, c'est des détenus, mais on oublie un peu. C'est le réflexe humain qui sort d'aller sauver une vie. Okay? Nous autres, on peut même mandater, on peut tirer avec un arme à feu, on peut tuer quelqu'un qui est en train de faire une blessure grave, puis peut-être mortelle, à un autre détenu. Mais si on est, juste pour la question, si on est payé assez cher, écoute, on a quand même des bonnes conditions. T'sais, moi, je suis retraité depuis le 4 juillet, j'ai 53 ans, OK, 25 ans de service. On a quand même des bonnes conditions. Est-ce qu'on voudrait être payé plus? Oui. Par contre, je dirais que le besoin le plus criant, outre un bon salaire, surtout le provincial, sont moins bien traités que nous autres, c'est plus de support, plus d'équipement, plus de sécurité.
T'es-tu sorti de là, poké?
Moi, j'ai un syndrome de post-traumatique là, ouais. que je commence à mieux gérer, là.
Puis, exemple, là, comment ça peut se traduire? Tu es dans une pièce, tu te mets tout le temps le dos au mur, tu laisses jamais personne te passer derrière?
Ben ça c'est comme un réflexe qui vient normal pour nous autres, OK? Ouais. Fait que ça, c'est pas partie du post-traumatique. Puis ça, la réaction, les manifestations de post-traumatique sont propres à chacune des personnes qui en a un. Moi, c'est que j'ai de la misère à contrôler mes émotions.
OK.
Fait que je vais pleurer bien facilement. Je vais je vais me sentir dépassé par quelque chose assez vite. Que je vais embarquer un petit peu comme en panique, si tu veux, là. T'sais.
C'est-tu venu de cet événement-là que tu nous as partagé, ce choc post-traumatique-là? Ou c'est l'accumulation?
Ben, c'est ça. Ça, c'est la particularité des chocs post-traumatiques. Souvent, les gens vont penser... vont avoir comme référence, mettons, les militaires suite à un gros événement, une grosse journée de combat, puis tout ça. Ça en fait partie. Mais effectivement, il y a l'aspect que accumulation de plusieurs choses. Et surtout, ben, tu sais, nous autres, oui, on fait ce travail-là, mais en dessous de la chemise, on est des personnes comme vous autres, avec des réalités familiales comme vous autres, le stress de n'importe quoi d'autre de la vie courante. Fait que des fois, il arrive des événements, puis c'est juste qu'au moment que l'événement arrive, t'es plus vulnérable. Mm. Donc, les choses qui pourraient m'affecter moi, peut-être que toi, ça serait moins important. OK? Et malheureusement, pendant beaucoup d'années, mais presque toutes les années que j'ai travaillé, on a un peu la mentalité intérieure, ben on fait ce qu'on a à faire, puis on veut pas être faible, puis on se ferme la gueule. Fait qu'entre nous autres, on oublie de vérifier, tu sais, comment tu vas, puis tu sais. Puis là, ben la routine embarque, tu sais, le travail sur des corps de travail, tu sais. Puis
c'est beaucoup d'accumulation quand tu sors de là, mettons.
Ben c'est beaucoup d'accumulation, là, pour...
Avez-vous une peur de croiser des détenus à l'extérieur?
Peur, non, parce que, ben, premièrement, nous, en étant fédéral, puis en étant le seul pénitencier maximum, on a des gens d'un peu partout. Donc, on n'a pas juste des gens de Québec. Contrairement à Hors-Saint-Ville, qu'eux autres, ça rentre à tous les jours à pleine porte, c'est beaucoup de monde de la région qui vont se ramasser là. Nous, ça va arriver, mais c'est moins. Personnellement... moi, j'ai toujours eu une bonne réputation face aux détenus puis avec mes collègues de travail.
Parce que tu étais droite.
Parce que j'étais droite. J'étais droite pour des deux bords. Puis en plus d'être droite, j'étais capable d'être conciliant. Je savais quand c'était le temps de donner un petit peu de lousse pour certaines situations, puis après ça, resserrer la vis plus pour régler un problème, si tu veux. Fait que ça m'est arrivé d'en croiser. Mais il y a une fois que ça aurait pu mal virer, puis les 3-4 autres fois, ça s'est très bien passé. Puis la fois que ça aurait pu mal virer, ben c'est sa blonde qui l'a ramassé par les cheveux, puis elle dit tout, mon grain innocent, t'en retourneras pas en dedans. Puis elle a été portée dans le char. Elle a été portée dans le char, puis elle est revenue s'excuser après. Fait que dans mon cas, c'est ça. Mais il y a toujours cette possibilité-là. C'est sûr qu'il pourrait avoir la possibilité qu'à un moment donné, t'en pognes un peu particulier, c'est ça, ouais.
Est-ce que ça peut exister, l'amitié entre agents carcéraux puis les détenus?
Amitié, non.
Non.
OK. Avec certains, avoir les relations vont beaucoup rester superficielles. OK. Avoir une meilleure communication avec certains, savoir que avec un tel, oui, on peut se parler. OK. Puis ça va rester au niveau de se parler, puis on va être capable de gérer des affaires. Oui, il y en a plus que d'autres. Ensuite, il y a le contexte. Lorsqu'on s'en va, mettons, en escorte, où on s'en va, mettons, de surveillance à l'hôpital. Là, on est tout seul avec le détenu. Puis il faut comprendre que les détenus aussi, ils ont un peu leur image à protéger face aux autres. Fait que s'ils sont trop proches des agents, c'est un peu moins bien vu. Quand on est tout seul avec eux autres, ben là, des fois, là, ils nous parlent de leur famille, puis ils nous parlent de ci, ils nous parlent de ça. Moi, je fais de la moto, mais il y en a qui me parlent de moto, tu sais. Fait avoir une bonne relation avec certains, oui, mais jamais, ça ne descendra jamais au niveau d'amitié.
Carl-Ruel, est-ce que tu t'es déjà fait tester? Est-ce qu'on t'a déjà demandé si tu étais capable de rentrer quelque chose en dedans?
Ben souvent, ça va arriver un peu en joke, si puis ça. Mais moi, j'ai pas eu de demande officielle. Puis de toute façon, quand il y en a un qui m'avait dit une affaire de la même, tu sais, j'avais dit, moi, il va falloir que tu compenses pour mes 25 ans de salaire, puis mon fonds de pension, puis ma qualité de vie, puis il faut que tu me donnes assez d'argent que je vais quitter le Canada. Fait que je suis pas sûr que ça vaut la peine pour rentrer ta cigarette.
Est-ce que tu as déjà pogné des collègues à faire ça?
J'ai eu connaissance d'un employé civil.
Ça, vous devez vous sentir trahi. Hein? C'est parce que là, un collègue qui fait quelque chose qui pourrait être néfaste pour vous autres, exemple un couteau, quelque chose.
Ouais, je vais t'expliquer. Quand je disais tantôt, les détenus, c'est beaucoup de business.
Ouais.
Okay? Lui, cet employé-là, il avait des problèmes d'argent, puis c'était quelqu'un qui jouait beaucoup. OK? Donc, ils ont comme fait une proposition comme en faisant croire que c'était un one-shot avec un beau petit montant intéressant, tu sais. Puis lui, ben sans faire pas exprès, tu sais, la pression de son problème financier, il a embarqué. Mais tout de suite après, il a déchanté parce que la deuxième fois qu'ils sont venus le voir, ben là, il tenait à la gorge. Fait que là, c'était plus intéressant. Puis là, ben lui, suite à ça, c'est lui-même qui s'est...
C'est vendu.
Qui s'est dénoncé, là, tu sais.
Tentative d'évasion, t'as-tu déjà eu affaire à ça? Des gars qui essaient de se sauver?
Moi, il y avait eu une évasion à Donnacona quelques années avant que j'arrive.
OK.
OK. Tentative officielle comme telle, non. Moi, n'ayant été dans le groupe tactique d'intervention, ben on a toujours des détenus plus ciblés, des détenus qu'on considérait comme à haut risque d'évasion. Donc, quand ils arrivent, quand ces détenus-là doivent être déplacés, c'était nous autres, le groupe d'intervention, qui le faisait. Fait que j'ai pas eu à faire face à une vraie tentative. C'est arrivé des fois, m'emmener les informations rentrées, qu'il faut peut-être avoir de quoi essayer quelque chose ou quelque chose était en préparation. Puis à ce moment-là, nous autres, le GI, on était contactés. Fait que j'ai pas eu de vraies tentatives. Mais est-ce qu'il y en a qui ont un début de planification? C'est possible.
Ouais. J'ai des chums dans la police de Québec, puis certains sont patrouilleurs dans le secteur de Saint-Roch, puis ils mentionnent qu'à chacune des interventions, si on les compte sur 100, mettons, il y a à peu près 80% que c'est de l'intervention pour de la maladie mentale. Puis j'ai un gars avec qui j'ai joué au hockey, qui était un agent carcéral aussi, qui me disait « c'est à peu près la même affaire en dedans ». T'as-tu constaté ça, toi aussi, au niveau fédéral, qu'il y a des gens qui devraient être un peu plus à l'asile psychiatrique que dans une prison?
C'est clair. Je peux pas dire quelle année, mais rappelez-vous, à un moment donné, quand ils ont fait la désinstitutionnalisation, là,
ouais.
Okay?
Ça a commencé dans les années 70, mais...
Il y a eu un blitz, là, quelque part, des années 90, là, au début de 2000, peut-être, mais dans les années 90, il y a eu un blitz de ce côté-là. Écoutez, je vais te faire un parallèle. Okay? Comme moi, présentement, j'ai un rhume. Là. Puis ma médication pour les sinus, j'oublie de la prendre le matin. Et moi, c'est rien qu'un rhume, c'est pas grave. Les gens avec des maladies mentales, souvent, ils ont besoin de médication. Puis là, on les laisse dehors en disant, ben, on va t'appeler une fois par semaine, on va, whatever, je sais pas l'encadrement qu'ils font. Donc, c'est sûr que ça dégénère. Et ces gens-là, ben, ils se ramassent en milieu carcéral. Puis là encore, un peu le service sup, la spirale. Des fois, ils font des choses. Mais effectivement, la quantité de médication qui est donnée au pénitencier à Donnacona, c'est incroyable. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est lié à différentes problématiques de santé mentale. Là.
Est-ce que ces gens-là sont est-ce qu'ils sont récupérables? Tu sais, quand tu es en prison en raison de d'une mauvaise santé mentale, puis à un moment donné, tu es obligé de prendre tes pilules, puis tu as fait de quoi de complètement débile, tu te ramasses au fédéral, tu as 2 ans. Si tu sors puis tu oublies tes pilules, tu vas retourner au fédéral plutôt que dans un hôpital?
Bien, pour les cas extrêmes, le fédéral, on a une unité de santé mentale.
Okay.
Fait que déjà, à partage, j'aurais dû commencer avec ça. Ça vous donne une idée à quel point le phénomène il est présent. On a une unité spéciale, mais ça, c'est pour les cas extrêmes. OK? Mais on va en avoir d'autres. C'est pas toujours des cas extrêmes. OK? Mais, tu sais, quelqu'un qui maîtrise pas sa colère, des fois, dans certains cas, une certaine médication va pouvoir aider. C'est sûr que quand il sort, bien là, c'est plus problématique. Nous c'est fréquent, quelqu'un qui sort, parce que nous autres, c'est 2 ans à perpétuité. Fait que si quelqu'un peut sortir après 5 ans sur une sentence, exemple, de 15, bien on va le voir revenir 3, 4, 5 fois pendant ce temps-là, parce qu'il est en conditionnel jusqu'à la fin de la sentence de 15 ans.
Est-ce que tu trouves que les détenus sont... Puis écoute, c'est parce qu'on a tellement lu ça, on dirait, dans les dernières années. Les détenus sont mieux traités que nos personnes âgées en CHSLD. Puis là, tu viens de parler d'unité de santé mentale. Puis j'ai comme eu le sourire parce que, comme simple citoyen, on a de la misère à avoir accès à des professionnels en santé mentale. Tu répondrais quoi à ça?
Il y a du oui et il y a du non. OK? Dans le sens que pour diminuer le transport de détenus en communauté, c'est-à-dire aller dans les hôpitaux, aller dans des différentes cliniques, bien, on a un centre de soins à l'intérieur. OK? Donc, le fait d'avoir un centre de soins à l'intérieur fait que, oui, le détenu, il va rencontrer le médecin plus rapidement que beaucoup de citoyens. OK? Ça c'est vrai. Puis là, quand le médecin dit, bien là, il faudrait que je sois vu par un psychologue, mais il y a des psychologues à l'intérieur. Fait que, ça va se passer beaucoup plus vite qu'un citoyen. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que ça, ce bout-là, il est lié au fait que, bien, on le gère à l'interne. T'sais, sinon, on serait pogné pour avoir 10-12 escortes par jour dans les hôpitaux à travers les citoyens, puis c'est un peu dérangeant. Par contre, oui, encore là, avec notre ami Justin, ben présentement, la façon de voir les détenus, ce n'est pas c'est pas géré comme un citoyen condamné pour des actes criminels, mais c'est vu comme une personne en besoin d'aide. OK? Fait que là, ils se gênent pas pour engager du personnel civil de différentes natures. Et c'est vraiment pour eux, puis ça, c'est un problème pour nous, surtout les vieux comme moi, donc on n'est pas habitués à ça. Bien, eux, ils voient vraiment comme une personne en besoin d'aide, qui a besoin de service, et là, il faut qu'on lui donne le service. Ça, j'avoue que ça coûte une fortune et que c'est très frustrant pour la population.
Je vais te poser une question bien personnelle. C'est-tu dur d'être traité tous sur le même pied d'égalité quand tu regardes... la télé, puis après ça, tu vois ce qu'il a fait. C'est tragique, ça va à l'encontre de tes valeurs, puis tout d'un coup, tu le vois arriver, puis c'est toi qui s'en occupe. C'est-tu dur de le traiter sur le même palier que les autres? Attends, quelqu'un qui a tué ses enfants.
Ouais, ben comme je disais tantôt, on est tous des humains en dessous de l'uniforme. Hein? Fait que c'est sûr que chacun a des points faibles. C'est sûr. Chacun a des points faibles pour. De mon côté, ce qui nous a aidé, Donnacona, c'est un sécurité maximum de population régulière. Contrairement, exemple, Port-Cartier, où c'est un pénitencier de protection. Donc, le profil de criminalité que nous, on a, n'est pas pareil. OK?
Fait que les pédos sont pas là.
En théorie. Je te dis pas qu'il n'y a pas de dossier, qu'il y a une section demandée dans le dossier que le gars a fait une agression, là.
Ouais.
Mais reste qu'en général, OK, les gros pédophiles, toutes ces choses-là, ça va être plus à Port-Cartier puis à Macasa que chez nous. Fait que ça, ce côté-là, on est moins confronté à ça. Mais des fois, ben comme toute personne, c'est comme vous autres, des fois, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, hey, lui, là, après 5 minutes, j'y crisserais mon poing sur la gueule. Ben, nous autres, c'est la même affaire. C'est ça. Ben, nous autres,
tu y penses.
Nous autres, c'est la même affaire. Il y a certains traits de personnalité. Moi, en tout cas, il y a certains traits de personnalité, des fois, qui venaient me chercher ouais. plus facilement que d'autres. Ensuite, ben, je sais qu'il y a plusieurs collègues qui vont analyser les dossiers en profondeur. Moi, je l'ai moins fait parce que je me dis que pour mon travail au quotidien, j'ai pas une... à part les détenus que j'avais à ma charge, j'ai moins besoin de tout savoir les particularités de chacun dossier
okay.
pour éviter ça. Mais c'était pas pour être un bon agent et être meilleur que les autres. C'est juste que moi, je trouvais que c'était plus facile pour moi de garder le contrôle si je m'occupais. Moi, j'ai besoin de gérer au day to day. Okay? C'est pas moi qui fais la thérapie à long terme. Fait que j'aimais mieux pas avoir trop de détails.
T'as-tu tombé sur des cas célèbres?
Des cas connus, oui. C'est sûr qu'on en a eu là, quelques-uns. Mais les cas les plus médiatiques, c'est souvent des affaires affreuses, puis ils se ramassent plus à Port-Cartier.
Ouais, okay. Mmh. Okay. Les trucs que tu as retrouvés dans les cellules des détenus que tu disais, voyons, jamais j'aimerais penser tomber là-dessus. T'sais, on parlait des pics tantôt, là,
ouais.
Qui ressemblent un peu à des crayons, là, puis ça sert à poignarder les gens. Y a-tu des choses que tu dis, je m'attendais jamais à tomber là-dessus?
Que je m'attendais jamais, non. Moi, j'ai été bien encadré. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'agents d'expérience. Puis, tu sais, j'étais bien entouré là, de ma gang là, à ce moment-là, en 98. Puis, mais de voir la créativité, ça, oui. Tu sais, exemple, trouver un arme à feu artisanale, de trouver ça à un moment donné, je suis pas comme surpris pour ta question. Mais surpris de voir la créativité en arrière de ça, les alambics, la créativité qu'ils font pour, tu sais, écoute, il y a un collègue, c'est pas moi qui l'a trouvé, mais j'ai vu les photos, le détenu, il a réussi à faire un espèce de faux mur en dessous de son lit. Puis en arrière de ça, c'était toutes des bouteilles d'alcool frelatées.
Mais voyons donc.
Y a un détenu, à un moment donné...
Il y avait un petit bord.
Ouais, lui, il était distributeur.
Il s'est capoté, hein?
Après ça, y a un autre détenu. Quand tu parlais d'évasion tantôt, ben on a retrouvé une tête de mannequin. Artisanale, là, faite avec, du papier mâché, puis de la peinture, là. Fait que, tu sais, ça confirme un peu ce que je te disais tantôt, que s'il y a eu des choses qui ont été tentées, oui, mais on ne s'est jamais rendu jusqu'à l'évasion. Mais c'est ça. Fait que, là, voir la créativité qu'ils ont, leur façon d'être dans une place et de voir un objet, puis d'imaginer une utilisation qui est 100% opposée de pourquoi l'objet est fait, ça, il y en a qui sont très créatifs.
Ça, c'est capoté. Drôle de question, mais c'était quoi ta journée typique, mettons? Tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, les seules visions de prison puis de pénitencier que j'ai en tête, c'est ce qu'on voit dans les films.
Ouais.
Mais tu sais, au day-to-day, quand tu rentres le matin, ça ressemble à quoi une journée typique?
Ben c'est ça. C'est que, tu sais, dans un film, je te dirais, tu vois dans le film, tu vas voir à peu près les événements qui sont tous regroupés dans le film, mais ça, c'est des choses qui pourraient prendre 6 mois, 1 an. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées, des fois, il y a des journées qui sont plus routinières. Okay? Fait que, exemple, je rentre de jour, en rentrant, premièrement, on fait un compte pour commencer la journée. C'est-à-dire que les détenus sont encore en cellule depuis toute la nuit. Fait que nous autres, on fait un compte. Quand on dit faire un compte, c'est pas juste compter le body, c'est qu'on s'assure qu'ils sont en santé puis qu'ils sont vivants.
Okay.
Fait qu'on fait un compte. Après ça, on les sort pour, mettons, le déjeuner.
T'en as-tu déjà trouvé des morts?
Moi, j'ai réanimé un pendu. Mais les détenus... trouver des détenus morts, oui, ça arrive. Ça arrive à chaque année. Morts soit par suicide, soit par agression, qu'on n'avait pas vu l'agression. Malheureusement, depuis beaucoup d'années, on a... beaucoup d'overdoses, je dirais, à 90% on les ranime.
Mm-hmm.
OK, mais ça peut arriver.
Les crimes, quand ils sont commis en dedans, gérez-vous ça à l'interne ou c'est souvent la police du coin qui va faire l'enquête en dedans?
Nous, on a un service de renseignement à l'interne, mais évidemment, tout ce qui est criminel, on va référer ça au procureur. La police va venir justement avec des enquêteurs, puis nous autres, c'est la Sûreté du Québec qui va venir. Fait que c'est le même principe qu'un crime à l'extérieur, sauf qu'il y a une bonne partie que c'est nous autres qui a géré, c'est comme saisir des éléments de preuve et tout, mais le dossier va être monté par les enquêteurs et le procureur décide s'il y a des accusations après ça. Parce que des fois, je ne compterais pas de menterie, une bagarre à coups de poing, textuellement, c'est dans le code criminel, c'est des voies de fait. Si la bagarre n'a pas eu trop de conséquences, ça, ce bout-là va être géré à l'interne.
Ça sort pas de... OK, je comprends.
Mais tu sais, trafic de drogue, tentative de meurtre, tout ça, ben ça va au palais de justice.
OK, ouais. Les relations sexuelles, vous réglez ça comment?
C'est pas mal...
C'est-tu comme dans les films?
Ben, c'est pas comme dans les films. Physiquement, Donnacona n'est pas faite comme les vieilles prisons que tu vois dans les films. OK? Fait qu'il n'y a pas un local de douche puis qu'il se ramasse 60 détenus à prendre le douche en même temps. C'est une section de douche qui est individuelle, au bout de la rangée, puis on envoie s'il y a deux douches, il y a deux détenus qui ont besoin de prendre une douche, puis on envoie les deux détenus. Mais, tu sais, il y en a d'autres qui vont les... Des fois, quand on retrouve deux détenus dans la même cellule, on a une bonne idée de ce qui s'est passé.
Ils ont-tu le droit de...
Ils ont le droit de, nos bonnes autorités, même mettre à leur disposition des condoms puis des digues dentaires. Ils ont le droit. Est-ce que toutes les relations sont consentantes entre eux autres? Je te mentirais en disant oui. Il y en a qui sont consensuelles, probablement oui. Mais il y en a certaines que le gars, ben, c'est sa façon de survivre dans la place. Là.
Hey, vous voyez des affaires que...
Ben, moi, vois-tu ça,
les
moi...
Les gens normaux, voient pas.
Non, c'est ça. Mais moi, vois-tu, moi, ça, c'est niaiseux. En 25 ans, je n'ai jamais vu une.
Okay. C'est peut-être une bonne affaire.
Ben, pour moi, oui, là, mais...
Carl, je veux vraiment revenir à la journée typique. Fait que vous faites le compte des détenus.
Ouais. Là, après ça, on les sort pour aller en déjeuner. OK? Après ça, on les retourne en cellule. Là, on va... On va faire une sortie pour ceux qui vont, exemple, dans certains ateliers de travail ou qui vont à l'école ou qui vont à différents programmes. OK? Et à chaque fois qu'on fait un mouvement de détenu, c'est toujours suivi par un compte parce qu'on est en maximum. OK? Nous autres, toutes les portes sont fermées partout. OK? Fait qu'à chaque fois qu'on bouge un groupe de détenus, bien, il y a un compte. Quand les détenus arrivent à l'école, bien, les officiers font un compte du nombre de détenus dans l'école. Puis là, nous autres, on a un compte en pavillon. Fait que si moi, j'ai envoyé 12 détenus à l'école, normalement, le compte de l'école devrait en avoir 12. Okay, sinon,
on suit.
On essaie de suivre. Sinon, il est où l'autre? Parce que des fois, l'autre, il est arrêté au centre de soins, mettons. Ou, okay. Mais on a tout le temps une trace. Il faut tout le temps qu'on sache.
Pas en perdre un.
Oui, puis qu'on sache combien il y a de détenus dans chaque local. Si on a une intervention à faire, il arrive quelque chose, je suis supposé d'être capable de répondre, de dire, bien... J'ai 5 détenus dans ce local-là. J'en ai 30 dans celui-là. Ça va influencer le genre d'intervention qu'on va faire. Là, l'avant-midi se continue. Après ça, on va avoir... Ça, c'est... Les gens vont trouver ça drôle. Là. On a une sortie pour les chômeurs.
Ah!
OK. Fait que ça, c'est un détenu que lui voudrait occuper un emploi, occuper des fonctions, puis qu'il n'y en a pas disponible. Fait que là, lui, il va pouvoir sortir en salle commune en mi-avant-midi jusqu'au dîner. Puis les autres, ceux qui veulent rien savoir, eux autres, ils vont rester en cellule toute la journée.
OK.
OK? Ceux qui veulent pas, du moins, je veux pas travailler, je veux pas aller à l'école, je veux pas rien faire.
Si tu veux de l'air, faut que tu t'inscrives à quelque part.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je vais te dire que... l'inscription, malheureusement, le système est fait, malheureusement, que c'est rare que ça part de l'initiative du détenu. OK? Le détenu, il arrive, il a besoin de suivi psychologique, bien, son équipe de gestion de cas va faire le suivi, va faire les demandes. Le détenu, il a besoin d'aller à l'école. Il va être de facto quasiment admis sans pratiquement faire de demande. C'est un peu... on les responsabilise pas bien ben dans le cheminement.
Okay. Est-ce que on les paye quand ils travaillent?
Oui.
Ils gagnent combien?
Oh, là, je suis plus à jour là-dessus, je te dirais.
Dans le temps,
là,
ils gagnent combien?
C'est pas des gros montants. Ils sont payés à quelques dollars par jour. Là,
Ils gèrent ça comment, l'argent de la cantine, toutes ces affaires-là? Ils ont-tu une façon de faire propre à eux? Ils gardent-tu leur argent dans leur cellule?
Ben, Non. Il n'y a pas d'argent monnaie sur place. Là, okay? C'est tout dans le compte, hein, comme une banque informatisée, si tu veux. Ouais. Quand ils vont à la cantine, ben, c'est un lecteur de main. Fait que chaque détenu sa main a été enregistrée.
Scannée, oui.
A été scannée. Fait que là, ben, il achète une caisse de Pepsi, tel montant, ben, il met sa main, puis la transaction se fait dans son compte.
Automatique. Hein. Ouais, c'est bien ça. Fait.
Oui, c'est quand même. Ça, cet aspect-là, oui, est bien fait.
Il peut s'acheter une caisse de Pepsi puis ramener ça dans sa cellule.
Oui.
Il est au fédéral, là. C'est pas ici à donner.
Non,
pas,
je comprends même, là, mais c'est quand même spécial.
Il travaille.
Ouais, c'est un jeu. Ben, il travaille, mais c'est parce qu'il y en a aussi que la famille vont déposer de l'argent.
Eh mon Dieu, moi j'empêcherais. Puis écoute, je suis vraiment pas. Je suis peut-être pas une bonne personne, j'empêcherais tout ça.
Ben, tu sais, exemple, la mère vient voir son fils, ben là, elle va déposer 200 $. Et le but initial de ça, il était quand même louable, c'est que t'as un peu comme nous autres, t'as le compte courant puis t'as le compte épargne. Et il y a une obligation de mettre un montant d'argent dans le compte épargne. C'est parce que la réalité, c'est sûr que dans les films, tu vois tout le temps des gros caïds puis tu penses que c'est tous des millionnaires puis tout, là. Mais il y en a plusieurs de détenus, là, que ce serait des itinérants d'or. OK? Ouais. Ça n'a rien, ça n'a pas grand-chose. Fait que si en 10 ans, ils peuvent ramasser un certain montant d'argent, bien, lorsqu'ils sont libérés, on leur donne ce qu'ils ont dans le compte épargne, puis ça fait cette petite partance-là. Ouais.
Ish.
Carl Ruel, ça a été un super plaisir de te rencontrer. Tu es un ex-agent correctionnel. Tu es retraité maintenant. La retraite te va bien?
Oui, ben là, pour un petit peu, parce que je suis quand même un petit peu jeune. Dans la station, je suis un des plus vieux à matin, là, mais comme retraité, je suis jeune, fait que je travaille 3 jours semaine dans un grand magasin de Québec.
OK.
Ça me fait voir du monde un peu, puis ça complète, parce que c'est sûr que moi, à la retraite, à 25 ans de service, j'ai pas la pleine retraite comme j'avais fait 35 ans. Là.
C'est ça. Tu cours-tu à vrai voleur?
Pas courir. Regarde-moi la chaîne, puis je cours plus.
Tu as juste besoin de lui demander de vider ses poches. Carl Ruel, un gros merci d'être passé. Puis peut-être qu'on pourra le recevoir une autre fois, parce qu'il me reste
encore à peu près des questions.
Un million de questions. Ça nous arrive souvent. Merci, Carl.
Ça fait plaisir.
Bye-bye. Boulevard.